Ouais.
Ok, okay, d'accord.
Ah, ouais.
C'est un peu mon histoire.
Tu crois ?
Oui.
Vas-y, vas-y, je t'écoute.
Les chercheurs de l'ARC analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle
sans fausse modestie,
sans tabou ou presque,
sans a priori, si c'est possible,
si c'est possible
de problématiques qui traversent notre société,
avec des gens du
avec
terrain,
des gens du terrain.
On va réfléchir ensemble,
et puis si on doute,
c'est tant mieux.
Du taf au fumoir.
En Belgique, depuis très très longtemps, il y a des gens qui manifestent contre les violences policières, qui dénoncent les bavures policières. Et récemment, divers événements dramatiques ont amplifié ce phénomène. La mort de la petite Maouda Chahri il y a 2 ans, la mort de Adil C et de Mehdi Bouda il y a quelques mois dans des courses-poursuites avec la police, et la mort de George Floyd aux États-Unis qui en plus a mobilisé énormément les médias sur la question.
Pourquoi certains jeunes fuient-ils la police ?
Il y a en Belgique chaque année une trentaine de décisions judiciaires qui sont faites.
Notre collègue chercheur Nicolas Marion a écrit une analyse intitulée « Bavure, violence policière ou ordre policier » dans laquelle il interroge le phénomène d'un point de vue systémique. Pour lui, il s'agit d'un problème structurel et qu'il faut aborder en tant que tel, y compris sans doute au sein de la police. On s'est demandé ce qui se passe en Belgique en matière de violence policière et pour ça, on a voulu rencontrer 2 femmes qui se battent contre le phénomène au quotidien. Julia Galaski, qui est responsable du projet Police Watch à la Ligue des droits humains, et Latifa Mkabeni, qui est l'une des mères mobilisées à Saint-Gilles pour dénoncer les traitements réservés à leurs enfants par la police locale et qui est aujourd'hui porte-parole du collectif des Madres.
Pendant toute la discussion, on a été tous secoués et marqués par le combat citoyen et la force de discours de Latifa. Je vous laisse découvrir. Bonne écoute.
Bonjour et merci d'être là.
Merci.
Bonjour,
merci.
On va commencer par Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu inviter Julia et Latifa aujourd'hui ?
Il y a plusieurs raisons en réalité, mais bon, déjà on en avait discuté entre nous au préalable. Il y a une chose qui est pas mal d'une part, parce que tu as cité George Floyd au début, c'est que je pense qu'on va pouvoir aborder la question depuis un point de vue belge, ce que je trouve pas trop mal, parce que finalement c'est peut-être la meilleure façon de s'accrocher à cette problématique qui, à mon avis, devient de plus en plus prégnante et importante. Et puis, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans la démarche de Julia et Latifa, qui est que, en fait, je trouve que vous représentez bien une rencontre assez particulière entre un mouvement qui est issu de citoyens, de population, et peut-être une approche qui est plutôt issue d'institutions et d'associations. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai le sentiment que ça part d'abord du citoyen avant d'être un projet associatif. Et ça, je pense que c'est, j'essaierai d'expliquer pourquoi plus tard, mais ça me paraît très très important et très pertinent que ce soit pas dans l'autre sens, c'est-à-dire pas une institution qui essaye de mobiliser des citoyens sur des sujets qu'ils ont décidés par ailleurs, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que des institutions soient amenées ou contraintes à engager des démarches pour accompagner des citoyens qui sont pris dans des luttes. Et puis parce que j'ai aussi quelques hypothèses théoriques et que c'est peut-être le meilleur moyen de les confronter, de les détricoter un minimum. Voilà.
Julia, comme on l'a dit en introduction, on a énormément parlé des violences policières suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'on peut projeter la même violence qui a été dénoncée là-bas, ici ?
C'est vrai que suite aux événements aux États-Unis, on a beaucoup parlé de la possibilité, du degré possible de comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, mais la comparaison avec la France aussi, qui revient souvent. L'histoire de la police en Belgique n'est pas la même qu'aux États-Unis, ni la même qu'en France. Les modes et les moyens d'opération, d'intervention policière ne sont pas les mêmes non plus. Mais il y a effectivement aussi des éléments sur lesquels on peut comparer ce qui se passe là-bas, et on peut aussi expliquer pourquoi ça a eu l'impact que ça a eu ici en Belgique, Et Anne, tu parlais de la mobilisation Black Lives Matter aussi ici à Bruxelles. Et je pense que c'est un exemple parfait pour l'illustrer. C'est que les victimes des violences policières sont aux États-Unis comme en France, comme en Belgique, issues essentiellement des quartiers populaires. Ça touche les mouvements sociaux. Les premières victimes sont les jeunes hommes racisés, les personnes sans abri. Et donc voilà, là, il y a vraiment c'est généralement les personnes les plus touchées qui sont aussi les moins équipées, les moins outillées pour après porter plainte.
Et est-ce qu'on a des chiffres un peu précis des faits de violence policière en Belgique ?
La réponse simple est non. Donc c'est d'ailleurs une des raisons d'être de Police Watch, de l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains. C'est d'appeler les gens à témoigner, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime de violences policières, pour essayer d'objectiver ce phénomène. C'est une demande d'ailleurs de la part de la Ligue depuis de nombreuses années qu'il y ait des statistiques officielles. Parce que lorsqu'on ne peut pas mesurer un phénomène, c'est très difficile aussi d'apporter des réponses et de le combattre. Après, voilà, il y a effectivement l'Observatoire récolte des témoignages. Donc je dirais que la réponse plus complexe, c'est que sur la période du confinement, par exemple du premier confinement dans le cadre de la pandémie, la Ligue avait lancé un appel à témoignages qui nous a permis, sur une durée précise, dans le contexte précis de la pandémie, de faire un rapport qui puisse permettre d'objectiver un tout petit peu, en tout cas, le type de violence qu'il y a eu dans ce contexte-là du confinement.
Et donc, comme il n'y a pas de statistiques claires, je suppose qu'on ne sait pas non plus se prononcer sur une évolution du phénomène dans un sens ou dans l'autre.
Tout à fait. Après, c'est un phénomène qui est beaucoup, beaucoup plus ancien que la mort de George Floyd. C'est vrai qu'il y a une attention médiatique, notamment particulière, depuis ce qui s'est passé aux États-Unis. On observe aussi une évolution de l'opinion publique de manière plus générale, qui est encourageante, parce que ça rend plus visible, en tout cas, un phénomène qui est déjà là depuis beaucoup plus longtemps.
Julia, tu as rencontré Latifa il y a quelques années. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ?
Oui, tout à fait. C'est un excellent souvenir. À l'époque, je travaillais dans le secteur de la jeunesse. Je coordonnais un projet Père et Repère pour construire la Bruxelles de demain, qui visait à réunir des jeunes bruxellois avec des parcours très, très différents. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait lancé un appel à participation. On a un peu sillonné Bruxelles, les différentes communes. On a trouvé un groupe d'une vingtaine de jeunes de 11 communes différentes. Et c'est dans ce contexte-là que Latifa m'a appelée. Elle m'a dit, voilà, il y a des jeunes ici à Saint-Gilles qui seraient parfaits pour ce projet. Ils ont un parcours juridique parfois un peu compliqué, mais c'est tout à fait le genre de projet qui... Voilà, c'est le début d'une amitié et d'un engagement commun sur ces questions-là.
Et qui a pris une tournure ici, dont on va parler avec toi, Latifa.
Du taf au fumoir.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu as vécu d'abord en tant que maman ?
Tout a commencé, je me rappelle encore, c'était la veille du Ramadan en 2017. J'avais mon fils qui était mineur à l'époque, qui est venu en courant à la maison et qui me disait que son frère aîné se faisait gifler par la commissaire. Donc moi, mon réflexe en tant que parent, je dis à mon mari, vas-y vite, moi je te rejoins. Et quand je suis arrivée là-bas, on voyait qu'il avait été giflé par la commissaire. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait réellement. Et c'est là que j'ai vu que la commissaire nous manquait de respect. Elle nous a insultés en néerlandais, elle piquait sa crise de colère, on avait rien compris, elle nous a vraiment manqué de respect. Ça m'a énormément interpellée parce que je ne comprenais pas cette colère, cette haine vis-à-vis de nous, en tant que parents. Et... par après, j'ai dit à mon fils, on va quand même aller à l'hôpital. Je veux qu'on voir un médecin pour qu'il puisse voir les traces de gifle. Et puis par après, j'ai quand même eu ce réflexe de contacter un avocat que je connais. Et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit, mais est-ce qu'il y a des témoins ? Je lui dis, non, il n'y avait pas de témoins. Est-ce que ton fils a eu un PV ? J'ai dit, non, il n'a pas eu de PV. Donc il me dit, je sais rien faire. Donc par après, j'ai dit, je vais quand même envoyer mon fils voir un médecin. Et quand j'ai dit à mon fils aîné d'aller voir le médecin, il n'a pas voulu. Il m'a dit, c'est pas grave, ce n'est que deux gifles. Il y a pire, certains jeunes, c'est pire. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire pire pour toi, ben, il me dit des dents cassées, des bras cassés, des nez cassés. Et moi, ça m'a énormément interpellée. Parce que je me dis, on a des droits. Donc mon réflexe de contacter, parce qu'à l'époque, souvent, ces jeunes étaient mineurs. Donc j'ai pris le réflexe de contacter Bernard DeVos, délégué général de droits de l'enfant. On a essayé de récolter des témoignages de façon anonyme. Je ne vous dis pas, ça nous a pris 5 mois de travail. Parce que pour libérer la parole, c'était très dur. Les jeunes n'ont pas ce réflexe de libérer la parole. Je crois que quelque part, ces témoignages de façon anonyme a quand même pu jouer un impact psychologique chez certains jeunes. Et c'est comme ça que j'ai vu que tout ça, pour moi, c'était une forme de discrimination et de racisme. Il faut le reconnaître. Et j'ai décidé, c'est là qu'on a décidé de créer le collectif des Madrés. Donc, pourquoi je l'ai appelé collectif des Madrés? Parce que nos enfants s'identifient à nous, les mamans. On a un lien très fort entre nous. Et je trouve que, en tant que militante, en tant que maman, ça joue un impact psychologique énorme via nos enfants.
Et donc, les padres, c'est pas pour ça qu'ils sont absents, en fait?
Non, non. Justement, les padres sont bien présents. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pères, des frères, des cousins, bah, c'est eux qui subissent les violences policières, c'est eux qui subissent la discrimination, c'est eux qui subissent le racisme et qu'ils ont difficile à libérer la parole parce qu'ils ont de la haine, de la colère. Et nous, mamans, sœurs, tantes, on a beaucoup plus facile à libérer la parole et beaucoup plus facile à combattre cette injustice.
Tu as parlé de racisme. Vous notez que c'est vraiment une violence qui est dirigée contre une certaine population, particulièrement.
Oui, oui. C'est souvent les gens issus d'immigration, donc souvent les Maghrébins, les Africains. On est vite stigmatisé. On a tendance toujours à justifier ces violences policières par dire qu'on ne sait pas éduquer nos enfants, que ce sont des délinquants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le quartier, moi je parle de Saint-Gilles, c'est que souvent, la plupart des jeunes traînent la nuit. La plupart sont en décrochage scolaire, on fait de l'enseignement spécialisé. Donc ils n'ont pas d'outils pour avoir leur place dans la société. C'est les exclus de la société et qui se raccrochent beaucoup. Il ne faut pas se voler la face à la délinquance, à la consommation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la société qui les a rendus comme ça. Parce que quand on voit en parallèle les jeunes, tout ce qu'ils subissent, et puis que tu vois les bobos qui font des pétitions, qui harcèlent la commune pour dire qu'ils en ont marre des bruits nocturnes, qu'ils n'essayent pas de comprendre pourquoi ces jeunes sont là la nuit, et que la commune fonctionne qu'avec la répression. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans la police, on investit beaucoup dans les caméras, on fait une gentrification, on tire, je veux dire, on n'a plus notre place dans les espaces publics.
Et donc, une place que, en fait, tu as prise, enfin, que vous avez prise avec le collectif, en interpellant notamment le conseil communal de Saint-Gilles.
Ce que je voulais dire d'abord, c'est que la mission du collectif de Madrid, c'est lutter contre la discrimination à l'égard des jeunes, que ce soit à l'école, dans le logement, ou bien dans l'emploi. Et aussi lutter contre les violences policières en travaillant en parallèle avec les ASBL, les maisons de jeunes, avec les parents. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes ne racontent pas les violences qu'ils subissent. Donc il y a un problème de communication entre les parents et les jeunes. Et que ça devient quelque chose de normal. Pour moi, ce n'est pas normal parce qu'on a des droits. On a des droits en tant que citoyen. Je veux dire, on a notre place comme n'importe quel citoyen. Et c'est comme ça qu'on a décidé, le collectif, de faire notre toute première interpellation. Donc c'était le 1er mars 2018, avec trois objectifs bien précis. Une évaluation externe de la brigade UNEUS, revoir les formations initiales et continues de la brigade et contrôle démocratique.
Est-ce que l'une de vous nous explique ce qu'est cette brigade UNEUS ?
Donc la brigade UNEUS, c'est un projet pilote qui a été instauré en 2012 par notre bourgmestre Charles Piquet. C'est une police de proximité. On vient de savoir il n'y a pas longtemps qu'apparemment cette police de proximité travaillerait en parallèle avec le service de la jeunesse. C'est une police qui est bien rémunérée, ça il faut le savoir. Donc c'est nous qu'on la paye. Et que cette police Elle est là, dans le quartier. Elle connaît tous les jeunes du quartier, donc elle connaît leurs noms, leurs adresses. Et qu'il suffit qu'il y ait un délit qui se fait dans le quartier, c'est directement, on n'essaye pas de voir si c'est bien le jeune qui a fait ce délit, mais c'est directement parquet, prison, IPPJ. Mmh. Et ce projet pilote, il voudrait l'instaurer dans les autres communes de Saint-Gilles. Donc l'interpellation, elle s'est déroulée en mars 2018. Donc pour faire une interpellation, c'est la parole citoyenne démocratique. Donc c'est quand même un outil hyper intéressant à utiliser. Pour qu'elle soit dans les normes, cette interpellation, il faut avoir 20 signatures de citoyens habitants à Saint-Gilles, remettre une semaine en avance pour qu'elle soit validée, et puis elle se passe un jeudi par mois, et ça se déroule à 20h.
Et quel accueil vous avez reçu cette première fois ?
Notre première interpellation, on était 4 mamans, donc c'est moi qui ai lu le texte de l'interpellation. Et c'était vraiment quelque chose que j'oublierai jamais parce qu'on avait le déni total du bourgmestre. Mais il a vraiment pété un plomb, il criait comme un fou. Et il m'a tout de suite stigmatisée en tant que mère délinquant. Donc tout de suite cette étiquette pour montrer que voilà, s'il y a des violences, c'est à cause de nos enfants, ils ne sont pas éduqués, ça traîne dans la rue, ça s'accroche à la délinquance et... Bon, c'était une belle expérience, mais un mauvais souvenir parce que ça m'a un peu traumatisée quelque part et c'est ça qui m'a rendue plus forte.
Et c'est une expérience que tu as déjà renouvelée combien de fois au Conseil communal de Saint-Gilles ?
Donc, on a fait deux interpellations, un film Place Nette et puis encore une interpellation. Et puis, il y a eu la quatrième interpellation, ça, c'est les citoyens de Saint-Gilles. Donc, il y avait un bon mélange, c'était vraiment multiculturel, il y avait de tout. Et puis, il y a eu la cinquième interpellation due à l'agression qu'il y a eu au mois d'août des trois jeunes filles.
Donc, le mouvement, en fait, est sorti beaucoup plus gros à ce moment-là, parce que ça a mobilisé d'autres gens, en fait.
Oui, tout à fait. On était au départ 4 mamans, puis à la cinquième interpellation, on était quand même 200 personnes.
Et donc, ça, c'est déjà, on va dire, un succès en soi, un espoir, on va dire, pour vous. Mais est-ce qu'au niveau des autorités que vous interpellez, il y a déjà eu des progrès, des choses que vous avez obtenues ?
On peut dire qu'on a quand même eu, en quelque part, une victoire, parce qu'on a eu quand même un accord de majorité. Donc, il y a un budget qui a été débloqué pour l'évaluation externe de la brigade. Et puis, il y a une motion qui a été faite où on reconnaissait justement les violences policières. Et puis, sans compter la mobilisation, donc on était 4 personnes et puis on s'est retrouvés 200. Donc, quand même, une interpellation, ça engendre une mobilisation, donc ça engendre des changements au niveau politique.
Alors, Julia, en dehors de ces interpellations que toi, tu as accompagnées, est-ce que tu peux nous dire comment on peut réagir en tant que citoyen ou citoyenne quand on assiste à des violences policières ou quand on les subit, au-delà de porter plainte au comité P, quoi ?
Oui, donc concrètement, il y a plusieurs cas de violences policières, qu'il s'agisse de violences verbales, psychologiques, physiques, mais que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime, un des premiers réflexes à avoir, Latifa mentionnait tout à l'heure le fait d'avoir eu le réflexe d'envoyer son fils chez le médecin. Effectivement, un certificat médical détaillé sur les lésions physiques, mais aussi psychologiques, est hyper important, vraiment à faire dans l'immédiat. Que ce soit dans l'objectif de porter plainte ou pas, parce que parfois on peut changer d'avis en fait. On peut être traumatisé sur le moment, surtout ne plus vouloir aller plus loin, mais peut-être 2-3 mois plus tard se dire « mais en fait, j'aurais voulu le faire ». Et puis c'est aussi en termes de processus de se remettre de ce traumatisme, d'avoir une trace écrite qui prouve bien qu'il y a eu violence, même si c'est un certificat médical, c'est très important. Donc ça, c'est une première chose. L'importance des images filmées, que ce soit sur téléphone, que ce soit des caméras de vidéosurveillance, super important aussi, en tant que preuve. Troisième élément, c'est les témoins. Donc de se dire, soit d'être soi-même témoin, c'est-à-dire que lorsqu'on est témoin d'une scène de violence policière, de ne pas hésiter à donner son contact à la personne victime pour lui dire, si tu as besoin d'un témoignage, que ce soit demain ou dans un mois ou dans 3 mois, j'étais là, je peux témoigner. Dans ce cas-là, c'est important de noter le récit, parce que les souvenirs, 3 mois plus tard, ce ne sera pas la même chose que le jour même. Pour le récit, il faut que ce soit le plus factuel, le plus complet possible. c'est-à-dire à quel endroit ça s'est passé, tous les repères vraiment géographiques, à tel le carrefour, de tel côté du carrefour, dans tel angle, etc. Combien de policiers, est-ce qu'on pouvait les identifier ? Brève description éventuellement des agents. Quels faits, voilà, que ce soit là encore des insultes, donc des violences verbales, etc. Et ça, c'est valable et pour les témoins et pour les victimes. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un dossier le plus complet possible sur le moment, de pas hésiter aussi à demander une aide psychologique, parce que ça peut être vraiment particulièrement traumatisant. Et je pense, quand je dis ça, à la fois à la violence elle-même, mais aussi à la violence qui peut s'en suivre lorsqu'on a l'impression que notre parole ne vaut rien. Et que, enfin, on pourra parler des plaintes, mais donc voilà, ça c'est de ne pas hésiter à chercher de l'aide, voilà, que ce soit auprès de proches, d'associations spécialisées, ou enfin là, Police Watch par exemple va lancer une ligne téléphonique, une permanence téléphonique dans les deux mois à venir, pour justement être à l'écoute des victimes. C'est indispensable que cette parole soit légitimée et relayée. Donc voilà, après, un dernier élément peut-être, au-delà de maintenant, enfin, de constituer des preuves, d'avoir vraiment, de pouvoir reconstituer un peu ce qui s'est passé, au-delà des plaintes aussi, il y a la mobilisation. Donc on constate que face à la difficulté de porter plainte, le fait de pouvoir se retrouver entre gens qui ont envie de faire changer les choses, la mobilisation est hyper importante. C'est face à l'impunité policière, en fait, c'est un moyen de pouvoir recanaliser une énergie qui peut, voilà, se manifester sous forme de colère, très intense, et de se dire, ok, en fait, là, plutôt que d'être en colère, en fait, il y a des choses à faire, il y a d'autres citoyens à rencontrer, il y a un travail de sensibilisation à faire dans son quartier, dans son école, sur son lieu de travail. Voilà, et donc la mobilisation, sur quelque forme qu'elle soit, peut aussi être un outil, une forme de réponse, en tout cas, en cas de violence policière.
Une fois qu'on a, on va dire, tout couché sur papier, évidemment, on n'est pas forcément très enclin à aller porter plainte à la police. Est-ce qu'il y a un lieu, quelque part, où on peut transmettre ces infos-là ?
Oui, donc effectivement, il y a la possibilité de juste témoigner pour laisser une trace. On parlait de l'absence de statistiques officielles tout à l'heure. Voilà, de manière générale, on encourage tout le monde à témoigner, par exemple, sur le site de Police Watch, où il y a un vrai travail de récolte et d'analyse des témoignages qui est fait. Lorsqu'il y a un dossier constitué, on conseille aussi toujours de contacter un avocat ou une avocate pour voir quelles sont les possibilités de porter plainte. Et là, la Ligue, on travaille étroitement avec des avocats qui sont vraiment formés et qui ont une expérience sur ce genre de dossier, donc à qui qu'on peut vraiment recommander en toute confiance, en sachant que voilà, il y a toute la question de l'accessibilité, hein, des procédures de plainte. Donc faut pas se leurrer, c'est des procédures qui sont coûteuses, qui sont longues, avec peu de chances d'aboutir. Donc c'est un vrai choix à faire par les personnes concernées. Donc on peut jamais dire aux personnes qu'il faut porter plainte. Enfin, c'est vraiment à la personne de faire ce choix-là. C'est effectivement, plutôt que d'aller dans un commissariat pour porter plainte, de passer par un avocat.
En effet, il faut avoir les moyens de payer un avocat.
Tout à fait. Après, ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'il y a aussi des solidarités citoyennes qui s'organisent via des crowdfunding et autres. Après, voilà, plus il y en a, plus c'est difficile aussi de trouver les fonds, mais ça peut valoir la peine d'essayer.
Et en ce qui concerne le comité P, parce qu'on est très nombreux à avoir déjà porté plainte au comité P, on est beaucoup moins nombreux à avoir eu un retour, même, je vais dire, un accusé de réception de nos plaintes. Est-ce que ça vaut quand même la peine ou pas de porter plainte au comité P ?
Là, il n'y a encore pas de réponse simple. C'est un peu du cas par cas. Et là encore, c'est aussi, on parle souvent du risque de représailles aussi. Donc au-delà du fait de ne pas avoir de réponse, parfois le fait de porter plainte peut se retourner contre la personne. Il y a parfois des PV de rébellion qui apparaissent par la suite à un dépôt de plainte au comité.
Ah oui.
Voilà, donc après, c'est pas du tout une généralité, hein, mais c'est juste pour dire que oui, on conseille de porter plainte au comité P. Le comité P a le mérite d'exister, mais toutes les organisations internationales et la Ligue aussi réclament depuis plus de 20 ans le fait que le comité P n'est pas un organe indépendant. Et donc voilà, je pense que ça dit tout. Après voilà, on encourage aussi toujours les gens à lire les rapports du comité P, parce que c'est des rapports qui sont très intéressants, d'autant plus voilà, qu'il faut lire entre les lignes, parce que pour un organe non indépendant, les choses qui sont dites dans ces rapports, ça en dit déjà très long. Et voilà, de manière générale, les personnes qui se sentent outillées, bien entourées, décidées, oui, il faut porter plainte au comité P, parce que là, pour le coup, c'est une forme, en tout cas, de statistique officielle qui est lue, en tout cas, au niveau des institutions et qui, de ce fait, n'est pas du tout négligeable.
Mais j'avais quand même une question pour Latifa. En fait, je me demande, si je te demandais, à ton avis, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, un soir dans la rue, il y a un flic du Néus qui passe et il choisit un moment d'être violent avec les gens de la population de son quartier ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les violences policières, la discrimination, le racisme, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je veux dire, quand nos parents sont arrivés ici, bon, c'est quand même eux qui ont construit Bruxelles, il faut le reconnaître. Ils subissaient déjà des violences à l'époque. Mais il faisait profil bas, parce que tu vois, quand tu viens de rien, tu ne vas pas commencer à faire le militant, tu vas pas... Mais c'est quelque chose qui a toujours existé déjà bien avant. Parce que la plupart des policiers, moi je crois qu'ils ne sont pas formés justement de façon à être beaucoup plus ouverts, de façon à mieux connaître les personnes. Je veux dire, nous on est quand même... Nos parents étaient la première génération, moi je suis la deuxième, et nos enfants est la troisième. La deuxième... génération à Saint-Gilles, je sais pas si tu connais bien Saint-Gilles, mais place Montrichard, je sais pas à l'époque, mais tu avais tous les nôtres, notre communauté où il y avait que des toxicos qui traînaient là et qui sont devenus toxicos justement pour moi d'après les violences policières, parce qu'on est vite stigmatisé, on connaît rien de nous. J'ai l'impression que malgré la troisième génération, on n'a pas notre place dans cette société. Et ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Maintenant, je constate que la troisième génération, c'est-à-dire nos enfants, ils sont balayés dans tout. Il y a une discrimination énorme dans les écoles, qui commence déjà en primaire, où on a tendance à vite placer un jeune issu d'immigration maghrébine ou africaine dans l'enseignement spécialisé. Pourquoi ? Parce que la maman, ah oui, c'est une foulardée qui ne connaît rien, qui n'éduque pas. Et tout de suite, on nous met cette étiquette de ceux qui n'ont pas leur place dans la société. On est les exclus de la société. Pourquoi ? Parce que ça a toujours fonctionné comme ça depuis le temps des temps. Et nos parents, la plupart ne savaient pas écrire et lire. Donc leurs droits, ils ne les connaissaient pas, il faut le reconnaître. Même s'ils le savaient, ils n'osaient pas trop. Mais moi, je suis la deuxième génération, mes enfants sont la troisième génération. Je me sens belge autant que n'importe qui. J'ai fait des études, donc j'ai ma place à 100%. Je connais mes droits. Et justement, c'est pour ça que je suis là, pour pouvoir aider justement tous ces gens qui croient qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Voilà, je ne sais pas si c'est...
Très bien, très bien. Mais...
Oui, peut-être juste pour compléter, moi, l'exemple que tu donnes, Nico, me fait penser aussi à ce qui s'est passé en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la zone Midi aussi, où les policiers s'offraient des personnes sans-abri en cadeau de Noël pour les tabasser près de la gare du Midi. Et donc, effectivement, la question de à quel moment est-ce que des policiers, des agents de police décident d'être violents, il ne faut pas forcément qu'il y ait un contexte d'escalade ou de ça, c'est vraiment je pense qu'il y a à la fois la question de la formation donc initiale et continue, il y a la question de l'impunité aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une fonction où on n'a pas forcément été bien formé, où en plus on sait que on peut un peu tout se permettre et que finalement les conséquences à part une petite sanction par-ci par-là ne seront pas d'envergure, ce sentiment d'impunité encourage en fait des abus de pouvoir effrayants. Et voilà, et d'autant plus que du coup, je pense que c'est pas un hasard que ça touche des personnes qui n'ont pas les outils pour porter plainte après.
Et moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que justement, c'est pour ça que je sensibilise les gens qui ne subissent pas les violences policières. Parce que justement, ils ne comprennent pas comment ça se fait que nous, on subit. Donc, et c'est intéressant de justement en faire des débats, en discuter, communiquer. Parce que tu vois, pour moi, exister politiquement aujourd'hui, c'est exister politiquement dans nos quartiers, en menant des luttes ensemble. Et c'est comme ça qu'on va arriver à militer contre les violences policières et contre tout ce qui ne va pas dans la société.
Thank you.
de tous ces, on va dire, phénomènes isolés, enfin, événements isolés que sont les violences policières telles qu'on les entend, telles qu'on en entend parler dans les médias, etc. Dans ton analyse, tu parles d'un phénomène qui est systémique. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que tu entends par là et pourquoi tu as voulu souligner le fait que c'est systémique?
Et j'ai trouvé très intéressant, Atifa, que tu soulignes qu'en réalité, il y a une logique d'exclusion qui est très explicite et qu'en plus, les gens que tu désignes comme les exclus, ce n'est pas eux qui se sont constitués eux-mêmes comme exclus, ils sont produits comme des gens exclus. Et c'est là, en fait, où le caractère systémique va apparaître, en fait, c'est que la police, elle a une fonction particulière qui est de s'occuper de cette population déterminée. C'est-à-dire de s'occuper d'une population qui est dans une situation d'exclusion. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est systémique? C'est que la police, c'est une fonction d'État. Donc, elle sert à organiser quelque chose au niveau du gouvernement de l'État. Et si on peut remonter à la base du problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans la société telle que nous on la connaît, il y a une population qui est produite comme exclue et une population qui est produite plutôt comme des personnes incluses. Et c'est là où commence en fait le problème de la violence policière. Parce que c'est dans le cadre d'un système néolibéral, l'objectif, entre guillemets, je simplifie énormément, hein, de ce système, c'est de permettre à des gens d'accumuler un maximum de capital. Et pour ça, il y a besoin d'une population qui soit disponible pour que cette production de capital, cette accumulation soit possible. Donc on a besoin d'une population qui puisse être disponible pour cette exploitation. Et on sait très bien que cette exploitation, elle produit de la violence sociale, elle risque de produire de la révolte, elle risque de produire des phénomènes sociaux indésirés, etc. Et c'est là que la police intervient. C'est pour réprimer le potentiel de violence qu'implique cette exclusion. Et je voulais juste dire, et c'est là que le caractère systémique apparaît, en fait, c'est que tant qu'on aura une société où on a besoin, où on place des gens dans une situation de précarité, de violence comme ça, on aura toujours besoin d'une police pour empêcher cette population de se révolter, ou de se rebeller ou de résister à cette violence sociale. Si on veut vraiment comprendre le caractère systémique de cette chose, il faut comprendre que les associations socioculturelles, les institutions, les ligues des droits de l'homme, etc., etc., l'ARC, peu importe, toute la société civile et associative, qui est plutôt, entre guillemets, du côté main gauche de l'État, plutôt positive, etc., eh bien, en réalité, elle a exactement la même clientèle que celle des violences policières. Et donc, elle a aussi fonction à échelle de l'État à s'occuper de cette population pour l'empêcher de engager des révoltes trop importantes, etc. Donc, c'est comme si, vous voulez, on peut prendre le pôle associatif, il a un rôle de pacification. Et si cette pacification n'aboutit pas ou ne suffit pas, eh bien, il y a l'appareil répressif. Et cet appareil répressif, sa fonction, c'est la police. Donc, tant qu'on aura une situation, pour conclure ce que je voulais dire, tant qu'on aurait une situation où il y a des exclus qui sont dans une situation de violence sociale, qui donc risquent d'engager des troubles à leur public, d'engager des révoltes ou des problèmes de ce type-là, eh bien on aura toujours, en tout cas dans le modèle de société que nous on connaît, eh bien, des institutions sociales qui essayent de calmer le jeu et d'encadrer cette violence sociale, de la limiter. Et si ce travail-là ne suffit pas, ce qui est le cas dans le néolibéralisme, eh bien il y aura l'autre part, qui est la partie plus répressive, quoi. L'usage de la force. Voilà.
C'est vraiment super intéressant comme analyse. Peut-être pour compléter encore un tout petit peu aussi sur le fait que les secteurs sociaux ont été désinvestis depuis les années 90. Les fonctions de répression ont été surinvesties. Ce qui fait aussi que quand on parle des personnes exclues, la police remplit aussi de plus en plus un rôle répressif dans des politiques qui ne sont plus du tout assumées par les services publics et par les secteurs sociaux. Donc, on parlait des sans-abri, donc c'est les politiques de logement. On n'a pas encore parlé des migrants, mais c'est la politique de migration. On parlait des jeunes et des jeunes qui sont en décrochage scolaire, donc c'est l'éducation. On parle des jeunes question d'insertion, IPPJ prison, c'est la réforme de la justice, et c'est le milieu carcéral. Donc voilà, donc je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui est très importante, en sachant qu'on a vu aussi une évolution qui est que le secteur social a de plus en plus aussi pris des fonctions répressives de flicage de leur public quelque part. Donc voilà, il y a aussi cette dérive-là qu'on observe de plus en plus ces dernières années. On a parlé d'impunité, on n'a pas encore parlé de l'esprit de corps. Donc c'est vraiment c'est des agents qui sont socialisés au sein d'une institution où la prise de parole, le fait de s'engager, de venir à une interpellation communale ou à titre personnel, c'est impossible, quasiment impossible. Les rares paroles un peu libérées de la part d'agents de police qu'on entend, c'est des policiers qui sont à la retraite, ou alors qui ont quitté la fonction de police. Donc ça, je pense que ça, c'est un vrai enjeu, et du coup, j'ai envie presque de faire le lien avec ta première question, Anne, sur la comparaison avec les États-Unis. Les images qui nous parviennent des États-Unis avec des policiers qui se mettent à genoux au milieu d'une manifestation citoyenne, on a dit, et je pense, Nico, ce que tu disais, effectivement, c'est pas la même histoire, et c'est, les comparaisons peuvent vraiment être des pièges aussi, mais ça peut aussi inspirer. Je pense que des policiers qui voient ces images ici en Belgique ne peuvent pas rester indifférents.
Ouais. Mais par contre, moi, j'allais dire tout à l'heure, dans les raisons que vous évoquiez de cette violence, il y a aussi un effet d'entraînement et l'effet d'omerta. Je veux dire, la personne qui a dénoncé les cadeaux qu'ils se faisaient entre eux à la gare du Midi en s'offrant des SDF, c'était un collègue à eux, ou une collègue, je ne sais plus, qui a dû être déménagée, tellement elle a eu des représailles en interne. Et donc, forcément, on fait comme les autres et on ferme sa gueule, pour le dire vulgairement, parce que si on dénonce ses collègues, on sacrifie sa carrière, en fait. Et donc, voilà, c'est un élément aussi, en plus, qui pouvait expliquer le fait que cette violence s'exerce par beaucoup plus de policiers qu'on ne le pense, en fait.
C'est quand même pas normal que nos enfants, ils ont peur de la police. Non. Donc ce réflexe, dès qu'on voit la police, ce réflexe de courir, ce réflexe de ne pas donner automatiquement sa carte d'identité, parce que on subit tellement, je veux dire, dans tous les quartiers à Bruxelles, qu'il y a cette peur automatique quand on voit la police. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est souvent les jeunes mineurs qui subissent les violences policières. C'est l'âge où on construit l'estime de soi-même, c'est l'âge où on cherche son identité. Donc ça a un impact énorme au niveau de leur avenir. Donc souvent, des jeunes qui subissent, ils veulent plus aller à l'école, ils tombent dans des décrochages scolaires. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est surtout les consommations. Donc, tu as beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des centres psychiatriques. Mmh. Les centres psychiatriques, maintenant, si tu veux rentrer, il faut compter 1 an, 2 ans avant de trouver ta place. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop. Des jeunes qui se suicident, des choses comme ça. Et moi, ça m'interpelle énormément. Et c'est pour ça que je trouve que pour changer notre société, c'est déjà travailler dans notre quartier. Se réapproprier l'espace public, nous, citoyens, avec les ASBL, avec les parents, faire des débats. Moi, je trouve que les débats sont très constructifs. On avait même fait avec une maison de jeunes des joutes verbales. On voulait apprendre aux jeunes qui sont en précarité, qui sont en décrochage, qui se raccrochent à de l'intelligence, pouvoir argumenter, pouvoir parler, pouvoir se reconstruire et pouvoir faire face à la police. Par exemple, faire des formations dans les maisons de jeunes, dans les quartiers. Quels sont tes droits ? Parce que la plupart ne connaissent pas leurs droits. Donc souvent, ils font profil bas. Et l'impact au niveau psychologique, elle est énorme. Tu as des familles qui sont détruites. Tu as des jeunes qui se retrouvent dans la rue parce que les parents en ont marre des perquisitions. Parce qu'il faut savoir que les perquisitions, ce n'est pas les simples perquisitions. Hein. On détruit une maison entière. Ou bien on casse des portes. Les parents ne comprennent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas contre la police, je suis contre les violences infligées à nos enfants. Donc la police, elle fait partie de notre société, c'est elle qui nous protège, c'est elle qui protège nos enfants. Mais quand je vois certains policiers, comment ils se comportent comme des délinquants. Et c'est dangereux pour la santé mentale de nos enfants. Et c'est cette lutte que je mets, que je combats au quotidien, et je la combats à Saint-Gilles. Et j'espère que notre façon de travailler, la vision des choses, notre façon Moi, je suis beaucoup pour la solidarité, fraternité, une société plus juste, justice pour tous. Ben, j'espère que cette façon, comment on travaille, ben, va se répercuter dans les autres communes, qu'on puisse faire des interpellations. L'interpellation, je le dis encore, c'est la parole démocratique du citoyen. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Parce que c'est ça, notre quartier, c'est notre quotidien, c'est notre vie. Et une société sans justice, pour moi, c'est une société qui ne peut pas exister. Je veux dire, ton enfant, tu peux pas lui dire que voilà, c'est comme ça, un point, c'est tout. Non, on a droit à nos droits et on va les prendre, ces droits. Voilà.
Je propose qu'on fasse une émission avec jusque la Tifa a dit.
C'était Du Taf au Fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle.
Pour moi, exister politiquement aujourd'hui, c'est exister politiquement dans nos quartiers, en menant des luttes ensemble. Et c'est comme ça qu'on va arriver à militer contre les violences policières et contre tout ce qui ne va pas dans la société.
Présentation Anne Leventhal, à la réalisation et au montage Raphaël De Slover, au coaching Marie Charette, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.